Chapitre 11. Dédicace. Mount Pleasant, New Hampshire. Jeudi 8 juillet 2010. Gaal Wood m'avait préparé à ce séjour comme à une opération commando. Il m'avait parlé en détail de l'enquête de l'époque. Selon lui, mon passage à la librairie de Cynthia Lockhart me permettrait facilement d'entrer en contact avec les locaux.
Tout ce que vous avez à faire, l'écrivain, c'est de vous arranger pour qu'on vous parle d'Alaska Sanders. Vous jouez les surpris et vous vous mettez à creuser.
Et comment je m'y prends? Avais-je demandé d'un ton sarcastique. J'interroge le libraire sur l'existence d'un bon crime sordide pour que j'en fasse un roman?
Faites ami-ami avec les gens du coin. Vous dites que Mount Pleasant vous rappelle Aurora, vous parlez de Nola Kellerghan, et le sujet d'Alaska s'imposera très certainement. Vous pourrez ensuite commencer à creuser plus ouvertement au motif qu'on vous en a parlé.
Des noms à me suggérer?
Essayez la station-service où Alaska travaillait. Le propriétaire l'évoquera sûrement.
Je fais quoi? Je débarque et je lui dis « Bonjour, je voudrais le plein, un café et quelques infos sur Alaska Sanders ?»
Soyez inventif, Goldman. C'est votre métier, non?
C'était facile à dire. Sur la route qui me menait à Mount Pleasant, je me demandais comment j'allais me débrouiller pour trouver une preuve irréfutable innocentant Walter Carey et Eric Donovan. J'étais presque arrivé à destination lorsque je reçus un appel de mon éditeur Roy Barnaski. Allô, Roy?
Goldman, j'apprends par la bande que vous serez en séance de dédicace demain dans une librairie du New Hampshire.
C'est exact.
Quelle mouche vous pique d'aller signer vos bouquets en plein été dans un patelin de campagne. Si vous voulez une tournée, on vous organise un truc mammouth à l'échelle nationale, pas le tour des trous à rats d'Amérique.
Je devais jouer finement avec Roy. S'il se doutait de quoi que ce soit, il se répandrait dans la presse pour se faire de la publicité à bon compte. « La librairie est charmante, » dis-je.
« Il y a des milliers de librairies charmantes, Goldman. »«
C'est vrai, mais celle-là est en difficulté. » »«
Goldman, une librairie est par essence en difficulté. Je sens qu'il y a une entourloupe. Qu'est-ce que vous me cachez ?»«
Rien, je vous le promets. » À cet instant, une sirène retentit derrière moi. Dans mon rétroviseur, un véhicule de police, gyrophare enclenché, m'avait pris en chasse. « Je dois vous laisser, Roy. »
« Que se passe-t-il ? »
« La police. »
« Vous êtes une calamité, Goldman. »
Si vous vous rendez un jour à Mount Pleasant, vous constaterez que la dernière portion de la route 21, à l'orée de la ville, est une ligne droite qui invite à l'excès de vitesse. Obéissant aux injonctions de la patrouille, je me rangeai sur le bord de la route. La voiture de police s'immobilisa derrière moi et une jeune femme en sortit. Je la regardais s'approcher dans le rétroviseur. Elle était très belle, cintrée dans son uniforme noir, lunettes de soleil sur les yeux. Elle devait avoir à peu près mon âge. Permis de conduire et papier du véhicule, s'il vous plaît. Je m'exécutai. Elle était à la fois charmante et autoritaire. Marcus Goldman, lut-elle sur mon permis de conduire. C'est moi, répondis-je en souriant. Vous arrivez de New York?
Oui, après un détour par Concorde.
Qu'est-ce que vous faites à New York?
J'y vis.
Ça, je m'en doute. Je vous demande ce que vous faites comme métier.
Comme métier? Répétai-je.
Oui, votre travail, votre profession, votre gagne-pain.
Je suis écrivain.
Elle ne scia pas. Écrivain de quoi?
Je suis romancier.
Elle haussa les épaules. Vous ne devez pas être très connu.
Un peu.
En tout cas, je n'ai jamais entendu parler de vous. Ce sont vos bouquins qui paient une voiture pareille?
Je souris. Non, ça c'est le trafic de drogue. Je sentis qu'elle se détendait. Elle sortit un carnet et y inscrivit quelque chose.
Qu'est-ce qui vous amène à Mount Pleasant, monsieur Goldman l'écrivain?
Je dédicace mes livres à la librairie Lockhart demain. Vous devriez venir.
Qui sait? Me répondit-elle en me tendant une fiche.
C'est votre numéro de téléphone? Demandai-je.
C'est une amende de $150 pour excès de vitesse. Roulez prudemment.
Elle remonta en voiture et s'en alla. Notre rencontre, en dépit des $150 qu'elle m'avait coûté, me procura un sentiment plaisant. Je lus rapidement son nom au bas de l'amende à côté de son matricule, Officier L. Donovan. Sur le moment, sans doute trop occupé à mon marivaudage, je ne fis pas le rapprochement. J'allais le faire une heure plus tard dans ma chambre d'hôtel. À Mantes Plaisantes, j'avais pris mes quartiers dans un hôtel charmant qui donnait sur un square fleuri. La chambre, confortable et spacieuse, était dotée d'un bureau qui faisait face à la fenêtre. Je m'y installai pour étudier le dossier de l'affaire Alaska Sanders que m'avait transmis Gaal Wood. C'est en le parcourant que le nom de la policière me revint en mémoire. Elle Donovan. Avait-elle un lien avec Eric Donovan? Je voulus le vérifier immédiatement. J'allumai mon ordinateur et me connectai à Internet. Je retrouvai le site de l'association Liberté pour Eric Donovan, sur lequel j'étais tombé quelques semaines plus tôt, lors de mes premières recherches sur l'affaire Alaska Sanders. Je pris cette fois le temps de le consulter. La page d'accueil faisait défiler différentes photos. Sur l'une d'elles, je reconnus l'officier de police de tout à l'heure, Lorraine Donovan. C'était la sœur d'Eric. La photo était récente, prise lors d'une manifestation de soutien à Eric devant la prison pour hommes du New Hampshire. C'était un endroit que je connaissais malheureusement bien. Harry Kéber y avait été incarcéré pendant l'été 2008. L'association Liberté pour Eric Donovan militait pour la révision de son procès, considérant qu'il était victime d'une erreur judiciaire. Elle avait été fondée en 2000, peu après la condamnation d'Eric à la prison à perpétuité, par Lorraine Donovan et Patricia Whitsmith, une avocate pénaliste militante. Une fois par mois, l'association organisait un rassemblement devant la prison. Lorraine, de son côté, multipliait les interventions pour défendre la cause de son frère. J'en visionnais plusieurs. Elle s'exprimait avec brio et avait de la répartie. Je nourrissais clairement un petit faible pour elle et je me mis à scruter les photos qui illustraient le site sans savoir si je le faisais pour les besoins de mon enquête ou mu par l'envie de la regarder encore. Une section du site, intitulée « La vie d'avant », regorgeait de photos d'Eric, prises pendant des parties de pêche, dans le magasin familial, s'entraînant avec Lorraine pour le marathon de Boston, ou encore avec ses parents, célébrant son 29e anniversaire qui avait eu lieu quelques mois avant son arrestation. À l'heure du déjeuner, je me rendis sur la rue principale. Mantes Plaisantes avait quelque chose de pittoresque. Les devantures des boutiques étaient soignées et les lampadaires encore parés des rubans et des bannières installées à l'occasion de la fête nationale. Je me resterai dans un petit café dont le hasard voulut qu'il se trouve côte à côte avec la rédaction du Mount Pleasant Star, le journal local. On pouvait difficilement imaginer meilleure source pour revivre les événements de 1999. Je m'y rendis après mon repas. Derrière le comptoir d'accueil, un jeune homme m'adressa un regard appuyé et me dit « C'est vous, Goldman ?»« Oui, » répondis-je, flatté d'être reconnu aux quatre coins de l'Amérique. « Vous portez la même chemise que sur la photo. Faites gaffe, on va croire que vous ne vous changez jamais. » Il désigna du regard une affiche sur la porte d'entrée annonçant ma venue à la librairie locale. « Ma mère travaille à la librairie, » précisa-t-il. « Elle vous adore. Moi, je vous connais pas. » « Il n'est jamais trop tard pour découvrir un bon bouquin, » lui fis-je remarquer. « Ma mère m'a dit que c'était un peu genre polar. Moi, je lis pas trop ces conneries. » « Merci, c'est toujours agréable de recevoir des compliments. Faites gaffe à la chemise quand même. Je veux dire, changez-vous d'ici demain. » J'acquiesçai d'un signe de tête pour mettre un terme à cette conversation absurde. Le jeune homme me demanda comment il pouvait m'aider. « Je voudrais accéder aux archives du journal, » lui dis-je. « Vous êtes abonné ?»« Non. Faut être abonné. » Alors, je voudrais m'abonner, s'il vous plaît. C'est $400 pour l'année. » Je sortis ma carte de crédit et je payai la somme demandée. « Voilà, » dis-je. « Puis-je accéder aux archives ?»« Il me faut votre carte d'abonné qui vous sera adressée d'ici 2 jours. »« Mais je viens de contracter mon abonnement. Sans votre carte d'abonné, je ne peux rien faire. Sauf, bien entendu, si vous me cédez la propriété du billet de $100 que j'ai vu dans votre portefeuille. » Je tentai d'argumenter avant de me résigner. Je lui donnai son argent et quelques minutes plus tard, j'étais installé dans la salle des archives. Comme tout avait été numérisé, je pus facilement, grâce au logiciel de recherche, retrouver les articles dans lesquels étaient mentionnés Alaska Sanders, Walter Carey ou Eric Donovan. Je les imprimai et les emporter pour les lire à l'hôtel. En repartant, j'omis un détail qui allait me causer un certain tort. Je n'avais pas effacé l'historique de mes recherches. C'est ainsi qu'après mon départ, le jeune homme de la réception, sans que je puisse être certain que ce fût lui, passa derrière moi et n'eut aucune difficulté à découvrir ce que j'étais venu chercher. La raison de ma présence à Mount Pleasant n'allait pas tarder à être éventée. Ce même jour, suivant les recommandations de Galwood, je me rendis, au prétexte d'y faire le plein, à la station-service de la route 21. Dans le magasin attenant, je fus accueilli par un homme d'une soixantaine d'années, dont je compris rapidement qu'il s'agissait de Lewis Jacob, le propriétaire.
« Bonjour, monsieur !»
me salua-t-il d'un ton avenant. « La pompe numéro 2, s'il vous plaît, » lui indiquai-je. Débarqué dans une station-service pour parler d'une jeune femme morte 11 ans plus tôt tenait du numéro d'équilibriste.
« Autre chose ?»
me demanda-t-il. J'avais envie de lui répondre « Tout ce que vous savez sur Alaska Sanders », mais au lieu de cela, j'attrapai une poignée de barres chocolatées disposées devant le comptoir. Lewis Jacob les fourra dans un sac plastique et me dit
« $85.20 ».
Je lui tendis ma carte de crédit. Son visage s'illumina en lisant mon nom.
« Vous êtes Goldman l'écrivain. Il me semblait vous reconnaître. Je comptais venir à la librairie demain pour que vous me dédicaciez vos livres. »
C'était l'opportunité que j'attendais. « Si vous les avez ici, je peux même le faire maintenant.
Oh, »« Ça ne vous embête pas. Ils sont dans l'arrière-boutique. »
Il m'entraîna dans les coulisses du magasin jusqu'à un espace étroit qui lui servait de bureau.
« Vous voyez, ils sont là, »
me dit-il en désignant mes livres posés sur une table.
Oh, « Je voulais être certain de ne pas les oublier. »
J'inscrivis dans chacun des ouvrages un mot amical, puis, embrassant la pièce du regard, je remarquai une photo qui représentait Lewis Jacob, plus jeune, en compagnie d'une jeune femme blonde, Alaska Sanders. Bingo. « C'est votre fille ?» demandai-je innocemment en désignant le cliché.
« Non, je n'ai pas d'enfant. C'était une employée du magasin. Une fille formidable. »«
C'était ?»«
Elle est morte il y a des années. »«
Oh, quelle tristesse, je suis désolé. Accident de voiture ?»«
Assassiné. » Assassiné par deux pauvres types de la région. L'un est mort, l'autre est en tôle pour le reste de sa vie. Je devrais pas dire ça, et s'il devait sortir un jour, j'en ferais mon affaire. Alaska, c'était le nom de cette jeune femme, était un être merveilleux, d'une gentillesse sans pareille. Et regardez cette beauté. Ils l'ont étranglée au bord d'un lac en pleine nuit. Quand une promeneuse a retrouvé son corps, un ours était en train de dépecer le cadavre. Enfin, bref, je veux pas vous embêter avec mes vieilles histoires sordides. Vous avez sûrement mieux à faire.
Oh, j'ai tout mon temps. Mon prochain rendez-vous est à la librairie demain à 16h.
Un café ?
Avec plaisir. 9 octobre 1998. La première fois qu'il la vit, c'était un jour de pluie torrentielle. Ce n'était que le début de la matinée, mais un écran de nuages lourds avait plongé la région de Mount Pleasant dans la pénombre. Elle poussa la porte du magasin sans oser y pénétrer vraiment.
« Bonjour, mademoiselle !»
la salua Lewis Jacob, pensant qu'il s'agissait d'une cliente.
« Je viens pour le poste. Eric Donovan est un ami, il m'a dit que vous cherchiez quelqu'un. Me voilà ?»
Elle termina sa phrase par un sourire déconcertant.
« Je m'appelle Lewis Jacob. Je suis le propriétaire.
Alaska Sanders, votre futur employé ?»
Lewis Jacob tomba aussitôt sous le charme de cette ravissante jeune femme. L'entretien d'embauche prit la forme d'une rapide causerie. Elle était originaire de Salem, Massachusetts, et venait de s'installer avec son copain à Mount Pleasant.
« Qui est votre copain ?»
demanda Lewis.
« Je le connais sûrement, c'est une petite ville. »
Il s'appelle Walter Carré. Il tient le magasin de chasse et pêche avec ses parents.
Les Carrés, bien entendu. Vous avez déjà travaillé dans une station-service?
Je dois d'abord vous dire que je suis très motivé, monsieur Jacob, et très volontaire.
Vous n'avez aucune expérience, n'est-ce pas?
Elle eut une moue suppliante.
J'ai travaillé dans un magasin de glace l'été de mes 16 ans.
Lewis Jacob décida de lui donner sa chance. Il avait vraiment besoin d'aide ici, et les rares candidates qui s'étaient présentées ne l'avaient pas convaincu. Il sentait qu'Alaska s'occuperait bien des clients. Effectivement, la jeune femme devint rapidement la coqueluche des lieux. Pour les habitués, le passage à la caisse était un moment d'échange, pendant lequel Alaska prenait des nouvelles de leur famille, des enfants dont elle avait retenu les prénoms, et... « Avez-vous pu venir à bout de ce problème de plomberie qui vous empêchait de dormir ?» Elle était toujours de bonne humeur. Et ce sourire. Lewis Jacob y pensait souvent. Le soir, dans son lit, à côté de sa femme qui dormait déjà, il restait longuement à fixer le plafond. Dans l'obscurité se détachait ce visage souriant qui lui plaisait tant. Mais Lewis Jacob allait bientôt découvrir que ce sourire lumineux était un rideau derrière lequel se cachait une profonde détresse.
Elle avait une faille,
me confia Lewis Jacob en terminant sa tasse de café. Une faille?
Un secret, quelque chose qui lui pesait. Elle ne m'a jamais confié ce dont il s'agissait, mais un soir, alors que je lui faisais remarquer qu'elle avait un air triste, elle me dit simplement « C'est à cause de ce qui s'est passé à Salem. » Je n'ai jamais su de quoi elle parlait. Mais vous savez, il y aurait de quoi écrire un livre sur elle.
Une sonnerie nous interrompit. Un client venait de passer la porte. Lewis Jacob se leva de sa chaise.
« Je suis seul en ce moment au magasin, »
me dit-il en quittant le petit bureau pour rejoindre le comptoir.
« Je ne prends d'aide que le samedi. Les temps sont durs. »
Notre échange s'arrêta là. Je m'en allais... Et alors que je m'apprêtais à monter dans ma voiture, Lewis Jacob me rattrapa.
« Monsieur Goldman !»
Je crus d'abord qu'un détail concernant Alaska lui était revenu, mais il agitait un sac en plastique.
« Vous oubliez vos barres chocolatées !»
me dit-il. Le vendredi 9 juillet, ma séance de dédicace eut lieu à la librairie de Mount Pleasant. Les lecteurs étaient venus en nombre, et pendant les 3 heures que durèrent mes signatures, une longue file d'attente encombra le trottoir de la rue principale. Il était 19h lorsque je terminai. Je ressortis du magasin un peu étourdi. L'air était doux, c'était un soir d'été agréable. Je m'apprêtais à marcher en direction de l'hôtel lorsqu'une voix féminine m'interpella.
« Vous accepteriez une dernière dédicace ?»
Je me retournai. C'était Lorraine Donovan. Elle tenait à la main un exemplaire de G comme Goldstein et un autre de la vérité sur l'affaire Harry Kéber.
« Je n'ai pas pu arriver plus tôt, » me dit-elle. « Je viens de terminer mon service. »
« Et je croyais que vous ne me connaissiez pas. »
« Je les ai achetés hier, après vous avoir vu. J'ai commencé le premier, c'est pas mal. »«
Seulement pas mal ?»«
C'est déjà pas mal d'être pas mal. »«
Vous êtes pas mal. » Elle éclata de rire.
« Vous êtes décidément un pauvre type, Marcus, mais je vous aime bien. »
Je m'assis sur un banc à proximité et sortis un stylo de ma poche. « Quel est votre prénom ?» demandai-je pour ne pas révéler que je m'étais renseigné sur elle.
« Lorraine. »
Je mis un mot dans chacun de ses livres. Lorsque je les lui rendis, elle jeta un œil amusé à la page de garde sur laquelle j'avais écrit « Pour Lorraine, de la part d'un pauvre type, M.G. » Elle me décocha un sourire dont je sentis qu'elle le réprimait en partie. Ses yeux brillaient d'un éclat vif.
« Vous avez un restaurant à me conseiller ?» lui demandai-je. « Je meurs de faim. »«
Luini !» répondit-elle sans hésiter.
« Un Italien exceptionnel, mon préféré. »«
Merci, Lorraine. À bientôt. » Je tournai les talons comme pour me rendre dans ce restaurant, alors que je n'avais aucune idée de l'endroit où il se trouvait.
« C'est dans l'autre direction !»
me dit-elle, hilare. Je fis volte-face. Elle ajouta «
Ils sont complets, de toute façon. Vous n'obtiendrez jamais une table. Alors que moi, si.
L'avantage d'être flic ?
Non, j'ai une réservation. »
Je suggérais, « Je peux partager votre table, si vous êtes d'accord. Je promets que vous n'aurez pas à me faire la conversation. » Elle eut un air mutin.
« Ça me semble une proposition honnête. »
Au fil de mes voyages et de mes tournées, j'ai eu l'occasion et le bonheur d'écumer un certain nombre de restaurants italiens. Luini à Mount Pleasant reste à mes yeux parmi les meilleurs avec Il Salumaio di Monte Napoleone à Milan. L'endroit vaut à lui seul un détour par le New Hampshire. Situé dans une rue calme, il occupe le rez-de-chaussée d'un bâtiment industriel qui avait dû abriter jadis une imprimerie. Il dispose d'une extraordinaire cour intérieure ornée d'hortensias et d'un large tilleul dont les fleurs embaument. Une fontaine complète le décor. Des bougies ajoutent une touche romantique à l'ensemble. Avec qui aviez-vous prévu de dîner ici ? Demandai-je à Lorraine alors qu'une hôtesse nous installait à une table bordant le bassin.
Pas avec vous. Enfin, avec toi. On peut se tutoyer si tu n'y vois pas d'inconvénient. À une époque, je venais souvent ici avec mon frère.
Il n'est pas disponible ce soir ? Demandai-je d'un ton faussement naïf.
Mon frère est... C'est compliqué avec mon frère. Enfin bref, moi tous les vendredis soirs, si je ne suis pas de service, je dîne ici.
Seul ?
Je dirais avec moi-même. Ce n'est pas la même chose.
J'hésitais à embrayer sur son frère et à la faire parler, mais elle ne semblait pas prête à se confier et je ne voulais pas la brusquer. Nous commandâmes du vin et nous passâmes rapidement à des sujets plus futiles. Nos goûts de lecture, de films, de séries télé. Ce fut une soirée agréable, un peu badine. Nous flirtions à mots couverts. Le dîner terminé, nous prolongeâmes longuement la soirée. La nuit était chaude. Quelques verres supplémentaires incitèrent à la confidence.
« Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir écrivain ?»
me demanda Lorraine.
« Mes cousins.
Pourquoi »« Pourquoi ?»«
À cause de ce qui leur est arrivé, » répondis-je laconiquement.
« Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir flic ?»«
Mon frère. » »«
Que s'est-il passé ?»«
Longue histoire. »
Elle but une gorgée de vin et je remarquai soudain la montre qu'elle portait au poignet. Une montre de luxe, une marque suisse, avec un boîtier en or et un bracelet en alligator de couleur verte.
« Jolie montre, » dis-je.
« C'était à mon frère. Enfin, elle l'est toujours. »«
Ton frère est mort ?»«
En prison, » finit-elle par confier. « Depuis 11 ans. »«
Je n'ai pas très envie d'en parler. »«
Tu veux manger une glace ?» Elle esquivait ostensiblement. Il fallait que je gagne sa confiance. Elle me plaisait beaucoup. J'éprouvais du respect pour elle. Ça me chagrinait de ne pas être totalement franc. Mais comment lui expliquer ? Comment lui raconter ces invraisemblables coïncidences ? Hélène Gaalwood, la lettre anonyme, Nicolas Kaczynski, l'enquête officieuse que j'avais entreprise, les preuves dont j'avais besoin pour que Lance Dane relance l'enquête sur le meurtre d'Alaska Sanders et peut-être parvenir à innocenter son frère. Je pris le parti de ne rien dire. Nous allâmes acheter une glace sur la rue principale au Deer Cup Ice Cream. Nous nous quittâmes à 1 h du matin, après avoir échangé nos numéros de téléphone et une étreinte plus qu'amicale. Je regagnai mon hôtel qui n'était qu'à quelques pas. En poussant la porte de ma chambre, je vis posée sur ma table une petite boîte. Mon nom était inscrit dessus. En voyant l'écriture, mon cœur se mit à battre. C'était impossible. J'ouvris le paquet et je trouvai à l'intérieur une petite sculpture de mouette semblable à celle que j'avais vue dans un tiroir de l'ancien bureau de Harry Kéber à l'université de Burroughs. Elle était accompagnée d'un mot. « N'allez surtout pas enseigner à Burroughs. » J'étais abasourdi. Harry était venu ici. Comment pouvait-il savoir ? Je m'approchai de la fenêtre. Il me sembla apercevoir une silhouette dans la rue. Je me précipitai hors de la chambre et descendis les escaliers 4 à 4 pour essayer de le rattraper. Au cours de l'hiver 2008, quelques mois avant l'affaire Harry Kéber et environ 2 ans avant les événements qui font l'objet de ce livre, je traversais une terrifiante panne d'écriture. Dans l'espoir de retrouver l'inspiration, je passai quelques semaines chez Harry Kéber.